Vous le savez, à Rage Against le matin, lorsqu'on traite de différents sujets, on adore jaser avec les acteurs, les artisans sur le terrain, les professionnels sur le terrain dans le domaine de la santé. Ben, on va dire, il n'y a pas plus sur le terrain que le docteur Pascal Renaud, qui est aussi président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Pascal, bon matin, merci d'être là.
Bon matin, ça fait plaisir.
Fais un petit bout qu'on ne s'était pas vu, on le sait que tu es un docteur, un homme occupé. Merci de prendre le temps de venir nous voir en studio à Rage Against le matin.
Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous.
Je doute fortement de la réponse que tu vas me donner, mais comment se passent les négociations entre les omnipraticiens et le gouvernement?
Ben, ça va pas bien. Vous ne serez pas surpris de l'entendre. Nous, on souhaiterait régler avec un bénéfice pour les patients. C'est ce qu'on vise toujours. Puis aussi, un respect des médecins de famille pour la valorisation de la profession. Mais actuellement, on est loin de là. Là.
Ouais. Il y a plusieurs sujets sortis dans les différents médias, entre autres Radio-Canada, au cours des derniers jours. Là. Entre autres, il y a toute cette idée-là d'enlever aux Québécois, Québécoises en santé leurs médecins de famille, classer les Québécois, Québécoises en code de couleur. Peut-être commencer avec... T'sais, pour le bien de tout le monde, juste expliquer, c'est quoi cette idée-là là, de mettre des couleurs sur l'état de santé des Québécois, Québécoises?
Ouais. Bien, le gouvernement, à l'automne, a demandé à un regroupement d'experts là, de faire une méthode pour s'assurer que les patients aient un accès médical. Puis la solution qui avait été offerte à ce moment-là, c'était de dire, bien, on va classer les patients selon leur état de santé. Donc, on est un code vert si on est en bonne santé. On est un code jaune si on a des problèmes d'hypertension, de cholestérol, d'obésité. On a un code orange si on a un cancer ou une maladie un peu plus grave, puis un code rouge si c'est un grave problème de santé mentale ou de toxicomanie. Donc, à la base, c'est pas mauvais comme idée de classer les patients par leur maladie. Par contre, le gouvernement, dans sa grande sagesse, a dit, bon, on va demander aux médecins de famille de désinscrire des patients pour prendre ceux-là qui sont les plus malades.
Codes rouges, codes oranges. Là.
Exact. Ce qui peut faire du sens, là, un peu de dire on va s'occuper des plus malades, mais c'est déjà le cas. Quand les patients s'inscrivent au guichet d'accès pour obtenir un médecin de famille, ils sont triés par une infirmière, ils sont classés, catégorie A à E à ce moment-là. Ce n'est pas des couleurs, c'est des lettres. Puis un patient comme une femme enceinte qui n'a pas de médecin de famille va être classé A parce qu'elle a besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de sa grossesse au moins dans les prochaines semaines. Donc, elle ne peut pas attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans avant d'être pris en charge. Donc, ça existe déjà. Puis les médecins de famille prennent de façon prioritaire ces patients-là qui ont des besoins plus grands via le guichet d'accès.
Et là, qui s'occuperait de ces couleurs-là? Parce que j'ai entendu des médecins dans les médias dire « ça n'a pas d'allure, ça va être des fonctionnaires qui vont mettre les couleurs ».
Bien, en fait, nous autres, on ne veut pas choisir là, qui seront les médecins, qui seront les patients qui perdraient leur médecin de famille. Mm-hmm. Nous, on veut les garder. Puis nous, ce qu'on veut, c'est que tous les citoyens aient accès à un médecin de famille. Par contre, là, je vous ai toujours dit, il nous manque 1500 médecins. Mm-hmm. On a refait les calculs, on a refait les chiffres. On s'est comparé avec le reste du monde, puis on est rendu à 2000 médecins de famille qui manquent. Là.
OK. Donc, la problématique ne fait que s'aggraver.
Mais le problème qu'on a dans l'accès, c'est qu'on n'est pas assez. Puis le gouvernement, au lieu de s'attaquer à ce problème-là puis de s'assurer que les étudiants choisissent la médecine familiale, bien, font des diversions. Ils vont avec des codes de couleur pour les patients. Ils vont avec des... blâmer les médecins de famille pour à peu près tout. Là,
ouais, vous n'êtes pas assez performant, vous autres, Pascal.
Ben, exactement, c'est ce qu'on entend. Mais quand je regarde mes collègues, là, ils ne pourraient pas en faire plus. Je pense qu'on a vraiment besoin d'être plus de médecins de famille, ça c'est clair.
Oui, Pascal, les grands titres là, qu'on voyait dans les derniers jours, là, les Québécois, il y a des Québécois, il y a des gens qui vont perdre, puis on sait à quel point c'est tough avoir un médecin de famille.
Clairement.
Il y en a qui vont perdre leur médecin de famille. Vrai ou faux, ça, c'est ces grands titres-là?
Ben, à l'automne, le ministre était sorti en disant « non, ça n'arrivera pas ». Donc, on était content parce qu'il n'y a pas un médecin qui veut perdre son patient non plus. Par contre, dans les négociations, ils nous ont écrit un document où ça revenait cette idée-là là, de perdre un médecin de famille. Puis là, le ministre a redit encore une fois en conférence de presse, non, ça n'arrivera pas, c'est pas notre plan. Le premier ministre l'a dit aussi, mais ça fait 2 fois qu'ils nous font le coup. Donc, jamais 203, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais moi, je pense que ça reste une de leurs options. que nous, on est contre. Là. Ouais.
Quand on parle du côté du Collège des médecins d'une grande consultation nationale pour se donner des idées de comment on pourrait mieux gérer la situation, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment faire avancer les choses, une consultation nationale? Parce qu'on dirait qu'on entend souvent consultation nationale, puis on se dit, bon, ben c'est juste ça jase, puis ça change pas grand-chose, mais dans ce cas-là?
Écoute, moi, les consultations nationales, j'ai un peu la même perception que toi. Là. On jase, on écrit quelque chose, on tablette le document, puis on passe à d'autres choses après. Je pense souvent c'est pour empêcher les gens d'émettre leur opinion directement, puis on essaie d'avoir un consensus qui n'arrivera pas dans ce cas-là. Là.
Tu comprendras mon sarcasme tout à l'heure quand je t'ai dit vous n'êtes pas assez performant.
Ouais, j'avais compris. Je comprends que vous êtes
performant. On savait où tu allais aller avec ça.
C'est
hein?
ça. C'est le discours du gouvernement présentement, de dire les médecins font pas assez, faudrait qu'ils en fassent plus. C'est quoi le meilleur indicateur de performance pour les médecins? Parce que le gouvernement voudrait que ça soit le nombre de patients vus par jour, mais moi, dans ma tête, c'est le nombre de bonnes rencontres par jour. T'es dans le sens, une rencontre complète qui va faire en sorte que la personne va ressortir du bureau du médecin ne pourra pas revenir dans 2-3 semaines.
Bien, en fait, c'est pas clair pour le gouvernement c'est quoi leur indice de performance, parce que actuellement, on est payé à la performance. On est payé par le nombre de patients qu'on voit. Si
ouais,
on
n'a
pas de patients, on
n'est
pas payé. Là.
Ouais.
Donc, c'est...
La base est là.
Il y a une certaine performance là-dedans. Mais le meilleur indicateur, si on était assez de médecins, c'est l'état de santé de la population. C'est ça qu'on devrait réussir à viser. Mais il y a tellement d'embûches actuellement. On ne peut pas mettre ça juste sur le dos des médecins de famille. Si je demande une résonance magnétique à un de mes patients qui a mal au genou, ben, elle va être faite dans 6 mois. Est-ce que le réseau est capable de soutenir les médecins de famille dans ce qu'ils demandent? Puis actuellement, ouais. c'est non. Puis si je demande une consultation en orthopédie parce que le patient a une imagerie qui montre que sa hanche est à changer, puis que ça prend 12 mois avant qu'il le voie, un autre 6 mois avant qu'il l'opère...
C'est le 18 mois de ma mère, ça que tu es en train de raconter.
Ben, exact. Puis là, dans ces 18 mois-là, ta mère, elle a probablement vu son médecin de famille 4 fois parce qu'elle avait mal.
Exactement.
Donc, et où la pertinence de ces visites-là vers le médecin de famille? Actuellement, le médecin de famille est la ressource qui est probablement la plus disponible, même s'il nous manque 2000 médecins. Là.
Fait que, mais c'est ça, même si vous étiez 2000 médecins de plus, le réseau n'est pas capable d'absorber.
Ben, en fait, il va falloir que ça change effectivement dans les autres. Puis il faudrait qu'on ait plus de ressources, plus de plateaux techniques pour avoir notre imagerie. Puis que les spécialistes voient nos patients plus rapidement aussi. Il y a 800 000 demandes de consultation en attente pour voir d'autres spécialistes que les médecins de famille.
Aïe, aïe.
Puis actuellement, mais c'est des patients comme ta mère qui attendent 12 mois pour se faire dire qu'elle va être opérée dans 6 mois alors que son indication d'être opérée est là. Puis pour une hanche, entre autres, bien... C'est la qualité de vie du patient
qui en
souffre. Quand ils sont plus avancés en âge aussi, où il leur reste moins d'années pour en profiter. Donc, ça n'a pas de sens actuellement. Puis le réseau nous soutient très mal actuellement.
Mais là, on voit, Pascal, que Québec propose qu'une partie de votre paye soit basée sur la performance de votre job. On en pense quoi de cette idée-là?
Bien, ça dépend c'est quoi les indicateurs de performance.
Okay.
Puis si, comme je te disais, si c'est le nombre de rendez-vous, mais actuellement, on est déjà payé de cette façon-là. Si on ne voit pas de patient, on n'est pas payé, donc ça ne change rien. Puis la performance, écoute, si c'est comme, je vais peut-être faire un petit parallèle qui est un peu boiteux, mais la caisse de dépôt, ils ont fait 20 % de moins de rendement, puis le monsieur Aymon a eu un bonus de 400 000.
Ouais.
Donc, si on fait moins et on est mieux payé, on va vous dire oui, c'est la performance.
Mais c'est une bonne idée de bord.
Je pense pas que c'est ce que le ministère souhaite actuellement.
Non, c'est ça. Parlant justement de dépenses, il y a le Collège des médecins qui est sorti pour dire ça n'a pas d'allure, on dépense jusqu'à 60 millions dans le troisième lien. Puis pendant ce temps-là, nos hôpitaux craquent de partout. C'est quoi la réalité? T'sais, parce que là, on a vu l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis on n'arrête pas de dire ça à Redjigan ce matin que ça n'a pas d'allure qu'un hôpital soit rendu dans cet état-là de désuet comme ça n'a pas de sens. Mais c'est sur le réseau ici à Québec. Là, voyez-vous des choses des fois que vous dites hey, « ça n'a pas de sens, c'est tel long, on ne peut plus l'utiliser parce qu'il y a un dégât d'eau, ce n'est pas réparé. » Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous voyez?
Je ne suis pas l'expert là-dedans,
ouais.
Mais je ne pense pas qu'il y a d'hôpitaux comme Maisonneuve-Rosemont mm-hmm. à Québec présentement. Là. Il y a des travaux qui sont en cours pour un nouveau centre hospitalier qui va mettre à jour là, les technologies là, dans le coin de l'Enfant-Jésus, qui va remplacer l'Enfant-Jésus et l'Hôtel-Dieu ultimement. L'Hôtel-Dieu, c'est vraiment un vieil hôpital, donc peut-être qu'il y a des choses là que je connais pas, là, mais actuellement, je pense pas qu'on vit les mêmes problématiques que Maisonneuve-Rosemont.
Ben, je fais juste du pouce à la question à Jeff, parce que j'ai dit quelques fois en onde, puis je veux ton appréciation de ton environnement de travail. Puis moi, j'ai dit, je comprends pas pourquoi au Québec, plus souvent qu'autrement, puis peu importe où on est en province, quand tu entres dans un hôpital, on dirait que tu embarques dans une machine à voyager dans le temps, puis tu retournes comme dans les années 60-70. Est-ce que c'est normal que nos hôpitaux sont pas utilisés au goût du jour? Parce que moi, je m'imagine le travail que vous avez à faire pour que la population soit en santé.
Oui, bien effectivement, la majorité des hôpitaux ont été construits des années 60-70. Là, donc, c'est ce que ça reflète quand on le voit. Mais pour moi, le plus important, outre les murs, le béton et tout ça, c'est l'équipe qui travaille à l'intérieur de l'hôpital. Donc, d'avoir des infirmières en quantité suffisante, des préposés, des gens d'entretien ménager, c'est toute une équipe qui travaille ensemble. Puis si on n'est pas capable de travailler en cohésion, bien, il va y avoir des ratés.
En effet. Pascal, en terminant, je t'ai souvent entendu dire au départ, j'ai confiance en Santé Québec, j'ai confiance au ministre Dubé. Est-ce que tu as encore cette confiance-là? Je sais que pour Santé Québec, elle s'est effritée là, avec ce produit.
En fait, j'ai plus confiance à Santé Québec. Là. Puis ni au ministre. Là. Le ministre dit que ça nous prend de l'accès. Puis ce qui s'est passé là, dans les dernières années là, de la CAQ, là, c'est 3000 cadres de plus en santé. 3000 cadres de plus en santé qui n'offrent pas des soins directs à la population. Mm-hmm. Donc, on coupe dans les soins directs à la population.
On coupe des infirmières.
On ne propose pas des solutions pour qu'il y ait plus de médecins de famille, mais on engage des cadres. Puis, si on regarde là, avec le salaire d'un cadre actuellement, 3000 cadres, là, ça aurait pu être 1500 médecins de famille de plus. Puis 1500 médecins de famille de plus, on serait vraiment pas en train de parler des mêmes enjeux d'accès aujourd'hui. Là.
Docteur Pascal Renaud, qui est président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec, c'est toujours un immense plaisir quand tu trouves le temps pour venir, ben, pour nous jaser, là, peu importe le moment, là, mais quand en plus tu viens nous voir en studio comme ça. Merci beaucoup de la visite ce matin.
Ben, ça fait plaisir, puis j'espère que ça va être un peu moins long avant qu'on se revoie.
Ouais, oui, clairement. Fais-nous signe quand tu veux et quand tu as le temps. On a toujours des sujets pour toi, Pascal Renaud. On fait une courte pause à Rage Against le matin. Après la pause, vous ne voulez pas manquer ça. Le maître métal Didier Sanson est en feu. Je ne sais pas si vous avez vu sa publication sur les sentences Netflix.
Il est en furie contre le terme sentence Netflix.
Pour lui, il est comme à ta minute. T'sais, vous ne voulez pas manquer ça. Il est en feu. C'est trop léger dire ça. Ça a de l'air dans les nuages. C'est pire qu'on pense. En tout cas, il va essayer de nous expliquer et nous convaincre. Manquez pas ça. Red.